الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Et non, ils se servent d'une ruse. Traduction des versets qu'on vient de lire. Ils se servent d'une ruse et moi aussi je prépare une ruse. Accorde au prophète donc un délai. Aux infidèles, accorde-leur un court délai. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre le tafsir après une petite interruption d'un mois. On peut reprendre le surat al-Tariq et Inch'Allah compléter ce soir les trois derniers versets du surat al-Tariq. À travers ce surat, on avait vu pas mal de choses, pas mal de sujets ont été abordés, la création de l'homme, le fait que l'homme retourne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que lorsqu'on est présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a ni quwwa wala nasr, personne n'est capable d'aider une personne quand il est devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu également, c'était la dernière séance de tafsir, le dernier cours de tafsir, où on parlait de la véracité du Coran, du caractère véridique du Coran, et qu'aucun des versets du Coran n'est contradictoire. Ce sont là des paroles vraies qui ont été protégées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le but que ces paroles touchent les cœurs de n'importe quelle personne qui dira la ilaha illallah jusqu'à la fin des temps. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala va clore ce sourate, Allah ta'ala va clore ce sourate avec un encouragement fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit de ce verset qu'on a lu, ils se servent d'une ruse. Et moi aussi, Allah parle de lui, et moi aussi je prépare une ruse. Alors, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala encourage notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, encourage le prophète alayhi salatu wa sallam par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés qu'il va connaître de la part des Quraysh, de la part des polythéistes de Mecca. Il faut savoir qu'au début de l'islam, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul, ou il était avec quelques sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, les personnes qui ne croyaient pas en Allah ne se contentaient pas de ne pas croire en Allah. En plus de ne pas croire en Allah, ils faisaient le maximum pour décourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Et pour décourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient de donner une fausse et une mauvaise image de l'islam. C'est ce qu'on appelle de la désinformation. Exactement comme cela se passe de nos jours, cela existait, la même situation, mais beaucoup plus grave encore à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si quelqu'un écrit des paroles blasphématoires contre notre religion, ben il y a quand même des autorités qui sont là, enfin qui sont censés être là et qui peuvent rétablir justice si des populations, des croyances ou des sensibilités ont été touchées, ont été atteintes. Mais à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, qui c'est qui commande? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les Quraysh qui dirigent. Et les plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est les Quraysh, c'est-à-dire sa propre tribu. Et voyez la difficulté de la mission du prophète alayhi salatu wa salam. Il fait partie d'une tribu, il fait partie d'une famille qui le dénigre et qui dit aux gens que notre neveu, ou alors notre petit-fils, non pas notre petit-fils, notre petit-neveu, ou alors notre cousin, c'est quelqu'un qui est fou, na'oudou billah, ou c'est un sorcier, ou c'est quelqu'un qui dit des paroles qui ne sont pas concrètes. Donc n'écoutez pas cette personne. Lorsque pendant le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait de camp en camp à Mina, lorsqu'il était à Mina, il propageait le message de la vérité aux populations arabes, de toutes les tribus arabes qui venaient pour le hajj. Et derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est qui marchait, qui c'est qui le suivait? Son propre tonton, son oncle qui venait derrière lui, et il disait aux gens, ne l'écoutez pas, Lorsque Vincent faisait un discours, lui ne venait pas dire, il dit ne l'écoutez pas, il est malade, il dit n'importe quoi. Ce qu'il dit, c'est pur mensonge. Ça, c'était une des difficultés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants, ils contestaient la révélation. Ça, c'est un fait. Comme de nos jours, il y a des gens qui ne croient pas. Mais la koum din, ou koum moi, ou aliya din, ce n'est pas un problème. Allah a décidé que jusqu'à la fin des temps, il y aura des gens qui diront la ilaha illallah, et il y a des gens qui ne diront pas la ilaha illallah. C'est pour ça qu'il y a un paradis, et c'est pour ça qu'il y a un enfer. On ne peut pas faire en sorte que tout le monde dise la ilaha illallah. Il y a le taqdir, les gens pour qui Allah a prédestiné la lumière de la guider, ça c'est une faveur qu'Allah a accordée. Soit quand on est musulman, soit au cours de notre vie, Allah nous guide vers cette lumière, et c'est la plus grande chance, c'est le plus grand cadeau, le plus grand bienfait qu'Allah peut donner à quelqu'un. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Quand Allah Ta'ala il tient une personne de l'obscurité vers la lumière, ça c'est la plus grande ouverture. C'est le plus grand cadeau qu'Allah puisse accorder à quelqu'un, que cette personne fasse partie des gens qui iront au paradis. Donc à l'époque du Prophète, il y a des gens comme à notre époque qui n'acceptaient pas la ilaha illallah. Mais ils ne se limitaient pas au inkar, au fait de ne pas accepter. Ils faisaient tout pour décourager les musulmans et pour donner une mauvaise image afin que les autres tribus arabes n'acceptent pas le message du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, de nos jours, quelqu'un il dit des choses sur notre religion, on a le droit de le défendre. On peut aller au tribunal, on peut pousser la personne en procès, etc. etc. Mais à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les Quraysh qui dirigeaient. Ils pouvaient l'insulter, ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Notre Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les quelques sahaba ne pouvaient pas riposter. S'ils ripostaient, s'ils osaient sortir ou proclamer le mécontentement, ils étaient immédiatement tués. Donc c'était une situation beaucoup plus complexe que celle que nous vivons de nos jours. Mais ils ne se limitaient pas à ça. Ce n'était pas que des paroles, ce n'était pas que des insultes, ce n'était pas que de la désinformation. Les Quraysh en venaient aux mains également. Les Quraysh, ils agissaient, ils faisaient en sorte de faire subir une pression non seulement psychologique, mais physique. C'est ceux qui disaient la ilaha illallah. C'était l'époque à Mecca où les musulmans étaient torturés. On connaît l'histoire de Hazrat Bilal radiallahu anhu. On connaît l'histoire de Suhayb ar-Rumi radiallahu anhu. On connaît l'histoire de Soumaya radiallahu anha. Des gens qui ont donné leur vie, leur bien pour garder la ilaha illallah dans leur cœur. Des gens qui étaient prêts à mourir plutôt que de reculer d'un pas du iman. Alors que même si, sous la contrainte, sous la menace, ils auraient pu contenter les Quraysh et dire que oui, nous ne croyons plus en Allah, dans le but qu'ils les laissent et puis ils ont iman de leur cœur, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mais c'était des gens qui avaient une telle présence de iman de leur cœur, une foi tellement forte que pour eux, subir des coups de fouet, être allongé sur le sable chaud du désert avec une pierre sur la poitrine, c'était rien parce qu'ils savaient que là-haut ils auront le Jannah. C'était des gens qui avaient les pieds sur terre, mais comme si que leur cœur était déjà dans le paradis. Ils savaient que de toute façon, quoi qu'il nous arrive, premièrement ça vient de la part d'Allah. Un. Deuxièmement, quoi qu'il nous arrive, il y a un bien dedans. Parce que tout ce qui se passe de ce dunya vient de la part d'Allah, et Allah il est adl et hakim. Allah est juste. Allah n'écrit pas le mal pour son serviteur. Même si nous le voyons comme mauvais, nous vivons des situations difficiles. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Et le contraire, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Peut-être en ce sens que vous aimez quelque chose mais c'est mauvais pour vous. Ou alors peut-être que vous n'aimez pas quelque chose mais c'est bon pour vous. Nous voyons les situations comme contraignantes, nous nous voyons opprimés, qu'il y a des difficultés, on a du mal à rester dans le dîn, mais il y a un grand bien derrière ça. Donc les sahaba radiallahu anhum, ils savaient que tout vient de la part d'Allah, et quelles que soient les situations, c'est la décision d'Allah. Et s'ils se soumettent à la décision d'Allah, ils font preuve de patience, Allah va élever leur degré. Et nous savons qu'à travers les épreuves, Allah accorde à un serviteur beaucoup plus que ce qu'il n'aurait pu mériter par ses actions. À travers les épreuves, Allah élève plus et accorde plus à un musulman, un serviteur, que ce qu'il aurait mérité par le biais de ses actions. Parce qu'une personne peut donner de son temps pour faire l'adoration d'Allah, mais on ne sait pas est-ce que l'adoration était faite correctement, est-ce que les conditions étaient réunies, est-ce qu'Allah a accepté, parce que sachant qu'Allah accepte quand il y a la taqwa, il y a les actions, tandis que quand, donc on fait une action, mais quelle, est-ce qu'il y a acceptation, ou alors quel degré d'acceptation, ça Allah seul le sait. Mais ce qui est sûr, c'est quand on est éprouvé par Allah, et qu'on a fait preuve de patience, ça c'est sûr que la récompense, elle vient d'Allah directement, et elle nous est promise. Et les péchés sont effacés, et les degrés sont élevés. Il y a ces trois choses à travers les difficultés. Et ces sahaba, comme Bilal radiallahu anhu, ou autres sahaba, ils savaient que même s'ils devaient subir mille et une difficultés, de toute façon ça vient de la part d'Allah, et ils savaient quelle sera la destinée. De toute façon, la pire des choses qui nous arrivent sera quoi ? Sera de mourir. Et ils rêvaient de mourir. C'est incroyable ça. C'est ce qui met au défi n'importe quel historien, n'importe quel ethnologue, n'importe quel psychologue, n'importe quel psychiatre ou n'importe quoi, peuvent pas comprendre des gens qui vivent et qui attendent la mort. C'était pas des kamikazes. C'était pas des gens dépressifs qui voulaient se suicider. Non. Ils rêvaient de mourir pour Allah, de mourir dans le chemin d'Allah. Les sortes de sahaba dont le nom ne me revient pas et que Shu'aib a le nom. Il était en train, pendant un des affrontements avec les ennemis, hein, il allait manger quelques dattes et il s'est dit que non, il allait manger, il s'est arrêté. Qui ça? Umair. Umair, radiallahu anhu. Il s'est dit que non, on lui a proposé d'aller en vacances, après tu reviens dans le chemin d'Allah ou fais un break, on te donne telle chose et puis tu reviens, va voir ta femme et tes enfants. Non, manger quelques dattes. Il avait la possibilité de profiter un petit peu de ce dunya, manger quelques petites, un petit dattes et puis retourner, faire ce qu'il devait faire, résister contre l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je sens l'odeur du paradis. Il sentait l'odeur du Jannah et il est parti et Allah a repris son âme dans son chemin et il sait exactement qu'est-ce qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sahaba radiallahu anhum ajma'in, ils ont supporté ces épreuves. C'était pas que des paroles comme à notre époque, c'était également des agissements contre leur personne. C'était pas qu'une pression psychologique, comme nous vivons maintenant. C'était de la torture, at-ta'dib. C'était des étapes extrêmement difficiles. C'est pour ça que dans le Coran, on parle des gens qui ont accepté l'islam, qabl al-fath wa hajar. Ceux qui ont accepté la religion d'Allah au début. Les sabiqoun al-awwaloun, les premiers, ils ont toujours un grade supérieur à ceux qui ont accepté l'islam, on parle toujours des sahaba, hein, mais après les moments difficiles. Parce que c'était des gens dont la foi était forgée de le faire. Ils ont connu c'est quoi iman, c'est pas juste qu'ils ont lu la ilaha illallah et ils ont mis en pratique. Non, ils ont lu la ilaha illallah et ils se sont défendus corps et âme pour garder la ilaha illallah. Contrairement à nous. Nous on a la ilaha illallah, mais on est prêt à le vendre la ilaha illallah. Si quelqu'un nous offre un travail avec 3000 euros de salaire, et qui nous dit que seulement tu restes de 14h à 18h, tu ne sors pas, il n'y a pas de pause, il n'y a rien du tout, on va signer le contrat. Parce que j'aurai 3000 euros par mois, et en un an ça me fait 36000 euros, je vais avoir de l'argent. Même si c'est pour sacrifier salat al-dhahr, salat al-asr, et peut-être salat al-maghrib, peu importe. On a la ilaha illallah, il n'y a personne qui nous empêche de pratiquer la ilaha illallah. Il n'y a personne qui nous livre combat pour abandonner une des actions de l'islam, mais c'est nous-mêmes qui sommes prêts à brader notre dîn, à vendre notre dîn, si on nous donne un petit peu de dunya. C'est comme si qu'on jette un morceau de viande à un chien, et il saute dessus. C'est-à-dire, si on nous donne un peu de dunya, on va sauter dessus, et on oublie qu'est-ce qu'on est en train de perdre. Je suis prêt à dire à ma fille, si tu vas te présenter un embauche, un entretien pour un tel travail, habille-toi bien, hein, laisse tes cheveux bien au vent, va faire un brushing, mets des vêtements près du corps, au moins ce patron-là, il va dire que ça c'est une jolie fille, j'ai besoin d'elle, je vais l'embaucher. On brade notre dîn, on brade notre haya, on brade nos principes, on va tout délaisser pour avoir quoi ? Pour avoir dunya, wallah musta'an. Ça c'est la grande différence entre nous et sahaba. Sahaba, peu importe ceux qui pouvaient arriver, Suhaib, tous ses biens ont été pris. Bilal, radiallahu anhu, son corps, il l'a donné pour Allah Azza wa Jal. Soumaya, radiallahu anha, elle a donné sa vie pour Allah Azza wa Jal. Mais ce qui les importait, qu'est-ce qui relie ces trois personnes? Garder la ilaha illallah de leur cœur. Faire en sorte qu'ils ne reculent pas d'un pas. Ne reculent pas d'un pas de leur cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit, n'importe quel cas de figure, ils savaient que ça venait de la part d'Allah. Et au pire c'est quoi? On les tue. Mais s'ils meurent dans le chemin d'Allah, ils retournent auprès d'Allah azza wa jal et ils savent qu'ils sont les plus grands gagnants. Parce qu'ils avaient compris quelle est la relation entre ce monde et l'au-delà. Nous, on a les livres, on a été madrassa, on apprend le Coran par cœur, on a des huffaz, on a tout, on a des infrastructures, on a des masjids plus solides que la masjid Nabawi. À l'époque, je pense à où lorsqu'il pleuvait, la pluie tombait, lorsqu'il faisait la sijda, il y avait de la boue sur le front. On a de belles mosquées, on a tout ce qu'il faut. Mais on a les actions apparentes. On a les actions, mais on n'a pas compris quelle est la relation entre ce monde et l'au-delà. On n'a pas compris la relation de cause à effet. Ce que je fais, je le retrouve là-haut. Ce que je ne le fais pas, je serai questionné là-haut. C'est comme si on vit dans un système et, subhanallah, à force d'être aspiré par ce dunya, cette mondialisation qui fait que on vit tous la même façon, le même rythme, on a les mêmes objectifs. Malheureusement, je parle pour moi-même en premier. Regardez les objectifs d'un musulman et d'un non-musulman. Wallahu musta'an, c'est la même chose. On veut tous un bon travail avec un bon salaire. On veut tous une belle voiture. On veut tous une belle maison. On veut tous une vie de famille épanouie. Et on veut voyager. On veut faire du tourisme. On veut voir des choses. On veut être heureux. Ça, c'est l'objectif du kafir. Et malheureusement, l'objectif du mu'min. Wallahu musta'an. C'est pas normal ça. Je parle pour moi en premier, qu'Allah nous pardonne tous. C'est pas normal. Alors que le prophète nous a dit qu'ad-dunya sijn lil mu'min. Ce dunya c'est une prison pour le musulman. C'est pas tout ce qu'il veut faire, il peut faire. Et même s'il y a des choses qui sont licites, il sait qu'il n'a pas perdu son temps dans des choses. Je parlais avec un élève avant-hier, j'espère qu'il n'écoute pas les programmes. Juste pour parler d'autres choses, pour ne pas parler à chaque fois de madrassa, c'est un grand. Je lui ai parlé de la finale France-Nouvelle-Zélande. Moi, je peux pas regarder sur le Zohar. Donc, je dis, ben alors, comment ça s'annonce et tout. On fait, bon, on verra. Allahu Akbar. Il m'a fait un bayan, depuis Moufia jusqu'à sa maison. Il m'a parlé en détail des termes techniques que j'ai jamais entendus. J'étais mal. Parce que quand on parle de dunya inutile, à un moment donné, je me dis que je perds du temps et j'arrive pas à ça. Ça m'énerve. Il y a le gratel. D'accord? Et aujourd'hui, là, recommencer, je l'ai bloqué net. J'ai dit, comment va ton frère qui est en France? Moi, ce qui m'intrigue, ce qui me chagrine, c'est quand des gens ils se préoccupent, mais ils font du dunya ou d'un loisir une fixation, une priorité. Quand je vois des jeunes qui vivent pour les PSP, qui vivent pour FIFA 2011, 2012, qui vivent pour des choses comme ça, Allahu Akbar, est-ce que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, est-ce que Anas ibn Malik radiallahu anhu, est-ce que Moussa ibn Umar radiallahu anhu, qui étaient des jeunes comme vous, votre âge à leur époque, est-ce qu'ils auraient perdu une seconde de leur vie? Oui, on n'est pas dans le même contexte. Oui, il n'y a pas le même fitna. Mais je ne vous parle pas du contexte. Je vous parle de comprendre la relation spatio-temporelle. Spatio, l'espace, il est très court. C'est court. Même si tu construis un bâtiment de 11 étages, on est riche, même si je possède la Réunion en entier, spatio, l'espace, c'est rien. Aile de moustique par rapport au akhirat. Donc spatio, c'est rien. Et temporel, le temps, subhanallah, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce qu'on a compris que ça, c'est un trésor, parce que ça nous amène vers la vie éternelle, bonheur ou malheur? Les sahaba, ils avaient compris la relation entre ce monde, le petit espace que j'occupe, le peu de temps que j'ai, et l'au-delà. Ils avaient compris ça. Même s'ils lisaient Coran, moins bien que nous. Je vais vous étonner là. Il y avait certainement des sahaba qui lisaient le Coran moins bien que nous. Il y a un sahaba qui vient de telle région, il n'est pas arabophone, il lit le Coran, il apprend. De nos jours, nous avons des qaris qui lisent de voix extraordinaire. Mais ce n'est pas là-dessus qu'Allah nous juge. Jour de Qiyama, on n'appellera pas une personne liée en sabah, et si tu lis bien, tout le monde dit Allah Akbar, tu entres au paradis. Non. On a reçu un grand qari il y a quelque temps. Alhamdulillah, j'ai écouté, j'ai fait la... Comment ça? Oh là, la bronca, je sais pas, on a tout ce que y a Allah, c'était bien. Après, pourquoi il n'y a pas plus de monde sur Salatul Fajr? Est-ce que le Coran a été révélé? Je n'incrimine pas le Qari. Il a une voix magnifique. D'accord? Ceux qui l'ont fait venir, alhamdoulilah, ils ont permis aux gens d'écouter le Coran, c'est des hasanat. Je parle d'autre chose là. On fait une parenthèse là-dessus. Je parle du résultat. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu plus de gens sur la téléphone? J'ai juste lu sur Facebook que le soir où il a fait un programme, samedi soir, je ne sais pas dans quelle ville, il y a eu moins de Arabes en boîte de nuit. Ah, c'est bien ça. Il y a eu moins de Arabes en boîte de nuit. Yani, ça a apporté quelque chose. De ce sens-là, yani, les musulmans, ils sont venus à la masjid, ils ne sont pas partis en boîte. Bon. Moi, je veux maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu plus de gens à la masjid? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris l'objectif, qui ont décidé de changer leur vie? Est-ce qu'il y a eu, c'était pas dames aussi, est-ce qu'il y a eu des dames qui ont fait le niyat que maintenant, je sortais les cheveux au vent, je me couvre bien, je fais preuve de pudeur? Est-ce qu'il y avait des maris qui avaient leur fille ou leur femme qui ne s'habillait pas correctement, qui savaient que quand ma femme sort et que si un cheveu est apparent et qu'un homme pose le regard dessus, elle est pécheuse, mais je suis le premier à être pécheur. Même si mon front est posé 5 fois par jour parce que je n'ai pas rempli mon devoir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers. Et chaque berger sera questionné à propos de son troupeau. Est-ce qu'il y a eu des maris qui ont fini de parler à leur madame, à leurs enfants, de la taqwa Allah, de la crainte d'Allah, du fait de rester dans le droit chemin, de faire des bonnes actions et de diminuer les péchés, de faire un cheminement vers Allah? Yani, on veut voir le résultat. Ou alors, est-ce que le Coran a été révélé pour être un spectacle? Là, wallah. Je vous dis, les sahaba lisaient le Coran, certains lisaient le Coran moins bien que nous. Il y en a qui lisaient beaucoup mieux que nous. Il y avait des sahaba qui étaient mashhour, très connus pour être des grands huffaz, pour être des gens qui maîtrisaient la lecture du Coran. Mais il y en a que ceux qui venaient d'accepter l'islam, qui venaient de la ilaha illallah, ils ne maîtrisaient pas le Coran comme nous avec autant de tajwid, avec autant de facilité. Mais ce n'est pas là-dessus qu'Allah nous juge. Je dis Qiyamah, encore une fois, on ne nous juge pas sur nos talents. On ne nous juge pas sur la longueur de la barre, même si c'est des sunnahs, c'est des choses qui font partie de la vie du musulman. Mais les a'mal et la compréhension des actions. L'amour d'Allah de le cœur, la crainte d'Allah de le cœur. Comme on expliquait à Montreuil il y a quelques jours, une différence entre deux musulmans qui font namaz côte à côte. Il y en a un qui fait namaz, mais son cœur est rempli d'amour pour Allah. Et dans son cœur, il a la crainte d'Allah. Ce qui fait que quand il y a l'occasion de faire un péché, il s'éloigne immédiatement. Quand il est en voiture, il y a une femme qui passe. Il sait que c'est une femme. Il y a le premier regard. Il baisse son regard tout de suite. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et il a l'amour et la crainte d'Allah dans son cœur. C'est-à-dire que chaque action qu'il va faire, ce sera par amour et par crainte d'Allah. Et quand il se lève le matin, il pense, comment faire pour que je me rapproche plus d'Allah? Et quand il se couche le soir, il se dit, qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui qui m'a éloigné d'Allah? Quels étaient mes péchés que je demande Tawba ou Allah? Parce que tu es mon créateur. Peu de gens, ils ont conscience de ça, que Allah c'est mon créateur. Et l'autre musulman qui est juste à côté, qui fait la même salat, parce qu'il a été madrassa depuis qu'il est petit, et il sait qu'il faut faire un namaz. Pourquoi? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que ça doit apporter? Quelle doit être ma relation avec Allah? Il ne sait pas vraiment, mais il sait qu'il faut faire. Son faraz a été accompli, mais dans la compréhension des actions. Plus on comprend une action, plus on est concentré, plus il y aura qualité de l'action, plus il y aura récompense, et plus on avance vers Allah. Chaque action me permet d'avancer vers Allah. Mais il faut que l'action soit concrète. Il faut que je réalise c'est quoi l'action. Donc, pour revenir, innahum yakiduna kayda, bonne nouvelle pour sallam. Allah Ta'ala annonce que ces gens-là, ils se servent d'une ruse. Allah Ta'ala annonce pour sallam que les Mekwa et les autres ennemis, ils ont des plans pour contrer l'islam, pour atteindre les musulmans sur le plan psychologique, mais physiquement également. Ils font tout pour casser l'islam. Mais Allah Ta'ala rassure le prophète sallam wa akidu kaida, et moi aussi je prépare une ruse. Alors ce que nous pouvons vivre comme difficulté, nous avons juste à penser ce verset que certes, il y a des gens qui nous veulent du tort. Il y a des gens qui essaient d'enlever l'amour pour Allah, l'amour pour l'islam de le cœur des gens, des musulmans, de nos enfants. Mais tout est dans les mains d'Allah. C'est pas eux qui décident. C'est Allah qui décide. Et si nous sommes éprouvés dans la pratique de notre religion, que l'on comprenne bien qu'avant nous, il y a des gens qui étaient meilleurs que nous et qui ont eu beaucoup plus d'épreuves. Et ça ne voulait pas dire qu'Allah les avait abandonnés. Attention que Shaitan met dans la tête qu'aujourd'hui il y a telle difficulté parce qu'Allah nous a laissés. Non! Avant nous, les gens ont connu beaucoup plus de difficultés et ils ont fait preuve de patience. Ils savaient que c'était ça l'épreuve et qu'Allah allait les élever par ces épreuves. Alors, on va essayer de se rattacher un petit peu au tafsir. Les ulama, rahimahumullah, les mufassirin, ils donnent quelques exemples. Ils donnent par exemple comme exemple, regardez Ayyam ou Makkah. Hein, pendant la période mécoise, les 13 premières années à Makkah, comment il y a eu ta'zib, on a dit tout à l'heure, comment il y a eu des tortures, il y a eu autant de difficultés, à tel point que les musulmans étaient obligés de quitter deux fois leur maison, leur ville. Une fois pour aller en Éthiopie, Habasha, ils sont revenus, il y a eu encore plus de difficultés, ils sont repartis, deux hijras au Habasha, et à la fin, les musulmans étaient obligés de quitter l'endroit qu'ils aimaient le plus, c'est-à-dire Makkatul Mukarrama, où ils étaient nés, où leurs ancêtres étaient là depuis des générations et des générations, uniquement parce que ils voulaient garder la ilaha illallah de leur cœur. Et ils savaient que qu'en restant là, ils ne pouvaient pas pratiquer leur dîn. C'était les difficultés. Ayyam ou Makka. Dans le deuxième exemple, comment ils ont connu des difficultés, comment les gens, ils ont fait makr wa kaid, innahum yakiduna kaida. Ils ont monté des plans contre les musulmans, contre les musulmans, lors du hijra, lors de l'immigration, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait quitter Makka pour aller à Madina, comment les Quraysh se sont réunis. Les ulama, les chefs de chaque tribu, chacun a donné son opinion. Comment contrer l'islam? Comment empêcher le prophète de quitter Makkah pour aller renforcer l'islam à Madina? Il y en a qui ont dit qu'il faut l'emprisonner, d'autres ont dit qu'il faut le tuer, d'autres ont dit qu'il faut l'expulser, etc., etc. Exactement comme de nos jours. Il y a des gens qui se réunissent pour essayer de trouver des solutions pour contrer notre dîn. À l'époque du prophète sallam, à une échelle beaucoup plus réduite, cela se faisait déjà et Allah Ta'ala laissait ces gens faire ce qu'ils voulaient. Il laissait ces gens monter leur plan, essayer de trouver des solutions, etc., etc. Mais en finalité, c'est Allah qui décidait. Et ils ont réuni des jeunes de toutes les tribus pour tuer le prophète sallam et à la fin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ça c'est leur plan, eux. Et ça, c'est la décision d'Allah. Wa akidu kaida. Et à toutes les époques, ça, c'est une leçon pour le prophète sallam, les sahaba et pour les musulmans de toutes les époques. Même s'il y a des gens qui font tout pour contrer la religion d'Allah, qu'on sache, qu'on comprenne bien que nous devons faire preuve de patience, pratiquer notre dîn, avoir confiance en Allah, certitude que tout ce qui arrive vient d'Allah, et plus on est prouvé, plus on sera récompensé et élevé par Allah, et que en finalité, wal aqibatu lil muttaqin. En finalité, Allah récompense et élève toujours ceux qui ont la taqwa de leur cœur. Et si on devait citer les exemples, on n'en finirait plus. L'histoire de Al-Rar, lorsqu'ils étaient dans la grotte, passant avec Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, comment les mouchriquins, ils ont promis une récompense de 100 chameaux pour celui qui ramène le prophète sallam, et 200 chameaux celui qui ramène le prophète sallam, plus Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Regardez leur plan. Ils ont envoyé des troupes. Les troupes officielles, on va dire, de Quraysh, plus des gens privés, des tribus, ils essayaient de retrouver le prophète Abou Bakr pour avoir la récompense. C'est-à-dire, la plupart des tribus arabes, ils ont bougé pour ramener le prophète Abou Bakr pour avoir la récompense. Donc, c'était un makr, c'était un kaïd, c'était un plan, un complot qui a été monté à cette époque, à leur niveau à eux. La décision des hommes, ça nous rappelle ce que le prophète a dit, que wa'alam anna. Subhanallah, le terme du hadith, que si ce monde et toutes les personnes de ce dunya se réunissaient pour te faire quelque chose de mal, ils ne pourront rien te faire si ce n'est ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Et pareil, si tout le monde se réunissait pour t'apporter quelque chose, ils ne t'apporteront rien de plus que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. وَعْلَمْ أَنِ الدُّنْيَا لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Ça, c'est le même cas de figure. On a toutes les tribus arabes qui sont à la recherche de deux hommes. Il y a deux contre tout le monde. Mais ces deux-là, il y a quelqu'un qui est avec eux. Quand le prophète me dit que la tahzan inna allaha ma'ana ma dhannuka bithnayn illahu thalithuhuma ma dhannuka bithnayn allahu thalithuhuma. Lorsqu'Abu Bakr est dans la grotte, le prophète, il a peur. Il a peur pourquoi Abubakar? Il n'a pas peur qu'on le tue, lui c'est. Peu importe, lorsqu'il marche, il marche devant. Après il marche un peu derrière. Après il marche à droite, après il marche à gauche. Le prophète m'a dit à Abubakar, on avait déjà dit ça il y a quelques temps. Il dit à Abubakar, c'est quoi ta démarche? Pourquoi tu ne marches pas à côté de moi? Tu es un peu là, un peu à droite, un peu à gauche. Le prophète ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de faire à Abubakar. Le prophète n'est pas caché aussi, hein. On comprend bien comme il y en a qui disent, il connaît tout ce qu'on a dans les queues, il connaît ça. Pas vrai tout ça. Abubakar, le prophète dit, oh, Abubakar, tu fais quoi? Abubakar dit, oh prophète d'Allah, je pense à l'ennemi. Si l'ennemi t'attaque, il y a une flèche, en ce sens, il y a une flèche qui vient de derrière, je me mets derrière. Je pense que si la flèche vient de derrière, je suis là, je te protège. La flèche me touche, toi tu restes sain et sauf. S'il y a quelqu'un qui vient de devant, ben, qui me dit que l'ennemi ne vient pas devant, donc je me mets devant. Quand je pense que l'ennemi peut venir de la droite, je me mets à ta droite. Et Abu Bakr, il était craintif, il avait peur, pas pour lui, pour le prophète, parce qu'il savait que la survie de ce dîn, la survie, le maintien du da'wa dépendait, bidnillah, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il voyait toujours plus loin. Il a toujours vu plus loin que les autres sahaba. Pas pour rien, l'histoire, le mithal, l'athala qui dit que si la foi d'Abu Bakr était mise d'un côté de la balance, et la foi de cette umma, à l'exception des anbiya, tous les hommes de l'autre côté de la balance, la foi d'Abu Bakr pèserait plus lourd. Hadib ça. Allahu Akbar. Abu Bakr avait tout compris. Il savait que ma vie c'est pour Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ce qui m'arrive c'est pas grave. Ce qui arrive à ma femme c'est pas grave. Quand il y a la bataille de Tabouk, il amène tout. Pendant dire, oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour ta femme et tes enfants? Il a pas dit, Abu Bakr n'a pas dit, bon, il laisse madame, il gagne mon petit Rémi, il gagne mon Asidik, il gagne mon petit Lakaf, mes enfants, il gagne LJ, je sais pas quoi, tranquille, allons diamant, pas de problème, il y en a mon petit revenu. Non, Abu Bakr dit, je laisse Allah et son prophète. Rien, pas laisser un sou. Allah et son prophète, c'est suffisant pour ma femme et mes enfants. Abu Bakr, il avait tout compris. Abu Bakr, le prophète me dit que, parmi les gens qui sont appelés par toutes les portes du paradis, Arjou Antakouna minhum ya Abu Bakr. Abu Bakr, je de Qiyamat, toutes les portes du paradis. Combien de portes il y a dans le paradis? 8 portes. Chaque porte du paradis veut avoir cet honneur d'accueillir Abu Bakr. À nous, nous ne connaissons même pas si nous pourrons avoir une porte. Qu'Allah nous accepte, Inch'Allah. Abu Bakr sera appelé par les 8 portes du paradis. Ça, c'est le niveau, différence de niveau entre Abu Bakr et les Sahaba et du Manjara Sahaba in Wallah Musta'an. Donc, pendant la Hijra, Abu Bakr a peur pour le Prophète. Quand il est dans la grotte, il voit les ennemis qui s'approchent. Et regardez, subhanallah, ça c'est symbolique ça. C'est un cas où tout est perdu. Toutes les conditions sont réunies pour que le prophète Abu Bakr meure. C'est comme si que le dunya était contre eux. Ils sont pris dans une grotte. Il n'y a rien à faire. Les mouchriquins sont à deux pas. Et Abu Bakr a très peur. Il dit qu'il suffit que quelqu'un se baisse, il nous voit. Et c'est des gens qui sont motivés. Ils sont là pour trouver quelqu'un. Ils ont monté la montagne. Vous croyez qu'ils ne vont pas fouiller la grotte? Le Prophète, il est tranquille. Allah Ta'ala a fait descendre là. Sakina sur le Prophète. Ça nous fait comprendre un autre hadith, ça, que Al-Quloubou, Ben Usbu'ain et Minasabi Ar-Rahman. Les cœurs sont entre deux doigts. Métaphore des doigts d'Allah. C'est une expression. Les cœurs, c'est dans les mains d'Allah. Allah, dans une situation de chaos, peut mettre la tranquillité dans vos cœurs. Le prophète savait que c'était une situation où, comme on dit, sur le papier, c'était compliqué. Mais Allah a mis la tranquillité dans son cœur. Parfois, il y a des gens qui ont tout, mais il n'y a pas la tranquillité. Les conditions de tranquillité sont réunies, les conditions pour être heureux, épanouis sont réunies, mais Allah ne met pas sakina dans le cœur. Et là, toutes les conditions sont réunies pour qu'il soit fait prisonnier, torturé, tué, exécuté. Mais Allah met la tranquillité dans le cœur du Prophète. Et il dit à Abu Bakr, la tahzan, ne sois pas triste, inna Allah, ma'ana, Allah est avec nous. Et ça veut dire quoi, Allah est avec nous? C'est-à-dire, on a l'aide d'Allah. Ils sont là, on est enfermé, on est encerclé, on ne peut pas sortir. Si on sort, ils nous tuent. S'ils rentrent, ils nous tuent. Ils sont à deux pas nous, ils sont armés, nous, on n'a rien du tout. Et même si on arrive à s'échapper, il y a des milliers de gens qui sont en train de nous rechercher. Des tribus sont prêtes à nous intercepter pour nous livrer au Quraysh. Mais Allah est avec nous. Même si l'humanité se réunit contre toi, sache que si Allah est avec toi, tu as tout. Ça c'est formation de l'iman. Allahu Akbar. Ça c'est préparation du iman. Ce qui fait que quand quelqu'un il est passé par ces étapes-là, hein, c'est fini pour lui. C'est pas pour rien si Omar ibn al-Khattab, il avait dit une fois que Abu Bakr, il y a deux choses qu'il a fait qui dépassent Omar et les actions de tout Ali Omar. Il y a deux choses, deux actions d'Abu Bakr qui valent plus que moi, Omar, tous les amal saliha de ma vie et toutes les bonnes actions de mes femmes, mes enfants, mes petits-enfants, ma génération, ma tribu. Ces deux amal, c'est quoi? Un matin et une nuit. Cette nuit, avec le prophète dans la grotte, comme il était avec la nusra du prophète. Et ce matin, après le décès du prophète, le matin, c'est quoi? Lors du décès du prophète, comment il a tenu ferme les rênes de la Ummah pour amener les gens vers le droit chemin, pour qu'ils évacuent cette angoisse, cette tristesse du décès du prophète, pour que chacun se reconcentre sur son objectif, c'est l'adoration d'Allah, et que personne ne baisse les bras. C'est-à-dire ça, ces deux choses-là, ces deux positions-là, avec ça seulement, basse, Abu Bakr me dépasse, dépasse toute ma famille, tout ensemble. Subhanallah. Et donc, dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit, que penses-tu de deux personnes, mais qui ont avec eux Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, et là pareil, les gens, ils n'ont pas pu voir Allah ta'ala mis comme un voile sur le visage, ils n'ont pas pu entrer dans la grotte, il y avait les histoires, vous savez, la toile d'araignée, etc. C'est-à-dire que ça concrétise, ça résume, ça, innahum yakiduna kaida. Ils ont leur plan, eux. Ils préparent, ils ont des ruses, ils veulent détruire ce dîn. Wa akidu kaida, mais Allah aussi, il a préparé son plan. Allah Ta'ala a préparé son plan. Subhanallah. Et enfin, فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا. Une fois sûr, le prophète était parti d'une tribu, Yahoud, avec un sahaba. Je crois que c'était Abu Bakr. C'est pour une histoire d'argent, une histoire d'emprunt. Il y avait eu un accident. Il avait besoin d'un emprunt d'argent. Il y avait quelque chose qui tournait de l'argent. Le prophète était assis et il y avait un des Yahoud qui avait préparé une pierre, je ne sais pas c'était quelle, Banu Qaynuqa Nadir ou Quraïda, préparé une pierre, il s'apprêtait à jeter la pierre sur le Prophète sallam. Innahum yakiduna kaida. Préparer un plan. Mais Allah, il met le wahi dans le cœur du Prophète sallam, lève-toi et pas. Et déclare la guerre à ces gens-là parce qu'ils ont essayé de t'assassiner. Les gens, ils préparent leur plan, ils ont leur intention de nuire, mais Allah Ta'ala, il prend sa décision et il montre quelle est la marche à suivre. Et, pour répéter le ayat, accorde aux prophètes donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Alors, la traduction n'est pas très très fidèle, elle ne représente pas vraiment le sens du verset. En résumé, le tafsir de ce verset, c'est quoi? Accorde-leur un délai, c'est-à-dire, dans ce verset, il y a intazir bimahla. Il y a deux choses. Il y a une mise en garde contre les Quraysh. Allah Ta'ala avertit les Quraysh contre, on pourrait dire, le retour du bâton, contre les conséquences de leurs actions. Et il y a en même temps un réconfort pour le Prophète, parce qu'il y a wa'ad bin nusra. Quand Allah Ta'ala dit que moi aussi je prépare mon plan en ce sens, en même temps c'est une mise en garde contre les Quraysh, mais en même temps c'est un encouragement pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Ta'ala va lui accorder son aide. Et effectivement, Allah Ta'ala a accordé son aide. Allah Ta'ala fait en sorte que les kuffars n'ont jamais pu atteindre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Ta'ala a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a fait de ses ennemis. Numatti'uhum qalila thumma nadtaruhum ila adhabin ghaliz. Allah Ta'ala, il laisse le temps à ces gens. Allah, il laisse ces gens faire ce qu'ils veulent, préparer ce qu'ils veulent, préparer leur plan, faire ce qu'ils veulent. Mais après, Allah Ta'ala, lorsqu'il prend ces gens-là, lorsqu'il punit ces gens, c'est une punition qui est extraordinaire, exceptionnelle et exemplaire, pour que ce soit ibra, ce soit une leçon pour l'humanité. Et donc, al-Nusra d'Allah, c'est que le prophète a pu quitter Makkah. Il a été accueilli par les Ansar. Il a pu s'installer à Madina. Il a pu construire une société. Et il a pu défendre le dîn jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala envoyé d'Aja à Nasrullah wa al-Fatih. Ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Avant, ils étaient un petit groupe. Ils ont essayé de tuer ce petit groupe. Allah a protégé ce groupe, a fait en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes qui comprennent, qui ont la hidayah, et ils ont eu la force, ils ont eu l'aide d'Allah, l'aide de tous les, par le biais des autres tribus, qui ont accepté le dîn, et Allah Ta'ala a envoyé son aide, et la consécration de l'aide d'Allah, c'était quoi? La conquête de Makkah. Lorsque le prophète est entré à Makkah victorieux, et les personnes qui lui ont déclaré la guerre, qui lui déclaraient la guerre depuis 20 ans, 21 ans, ils ont eu le zillah, c'était le déshonneur pour eux. Ils n'avaient qu'à se rendre et ils suppliaient presque le prophète sallam de leur accorder donc sa pitié. Et effectivement, le prophète sallam a dit à ces gens-là, idhabu fantumut talaqa. Le prophète a accordé la possibilité à ces gens de partir. Le prophète ne les a pas exécutés, ne les a pas torturés, ne les a pas tués. Donc ça, c'était la consécration de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à toutes les époques, il y aura des gens qui feront tout pour détruire le dîn, mais que tout est dans les mains d'Allah. Et il faut avoir la même réaction que les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les trois étapes. Les trois étapes sont quoi? Maghloum, Nusra et Ba'd al-Fath. Les trois étapes c'est quoi? La position d'opprimé. Comme les sahaba, quand il y a des gens qui vous font du tort, vous êtes opprimé, mais le cœur reste avec Allah. La confiance reste en Allah. La foi, le yaqin est inébranlable. Et sabr, ihtisab. Les mots d'ordre, c'est quoi? Patience, espoir de rétribution. Ça, c'est l'étape de mazloum, l'étape d'opprimé. L'étape suivante, quand les sahaba voyaient les conquêtes, ils voyaient l'ouverture, ils voyaient la nusra, maji ou nusra. Quand le musulman vit l'époque où Allah l'aide, il voit qu'il y a des facilités, gardez confiance en Allah, que l'aide est venue d'Allah. C'est pas de mes mains, c'est pas de mon intelligence, c'est pas par rapport à ce que j'ai prévu, c'est pas par rapport à telle personne, non. L'aide est venue de la part d'Allah, choukr, remerciement, toujours le cœur avec Allah, ne jamais faire preuve de fierté, d'orgueil ou quoi que ce soit, rester dans l'humilité. Et ba'd al-fathi, après la conquête, quand le prophète est à Mecca, il y a la victoire totale. Mecca qui revient aux musulmans, c'est l'Arabie qui revient aux musulmans. C'est toutes les tribus arabes qui reconnaissent la suprématie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à Mecca, la tête baissée, avec tawadu, avec humilité, et il fait preuve d'humanisme, de clémence, et il pardonne à ses vieux ennemis de 22 ans. Lorsqu'Allah envoie son aide et que tout va bien, gardez le cœur avec Allah. Être reconnaissant, ne pas se venger, se dire que tout vient d'Allah, les difficultés venaient d'Allah, l'aide vient d'Allah, dans tous les cas je reste soumis à Allah. Et tant que je peux aider mon prochain, je peux pardonner, je pardonne comme Allah Ta'ala me l'a demandé. Ça c'est vraiment des messages universels, c'est des messages remplis d'humanisme, d'amour et c'est une ligne de conduite qui a été observée par les musulmans à l'époque du Prophète sallam et qui est applicable à toutes les époques. Toujours avoir confiance en Allah, toutes les situations qu'on peut vivre, faciles comme difficiles, il y a une marche à suivre. Et celle que le Prophète sallam nous a enseignée. En une petite parenthèse, lorsqu'on voit, je ne parle pas d'actualité, je ne parle pas de politique, mais lorsqu'on voit les événements dans des pays musulmans, lorsqu'on voit Kadhafi par exemple, il a été lynché par la foule, il a été tué, les gens ils crient Allahu Akbar par rapport à sa mort, on est à des années-lumière de cette réaction du Prophète sallam. 23 ans où ces gens-là essaient de tuer le prophète sallam. S'ils pouvaient, ils auraient, na'oud billah, égorgé le prophète sallam, ses femmes et ses enfants, direct, sans hésitation, sans raham, sans qu'il y ait le moindre humanisme de leur cœur. Sans pitié, ces gens-là. Tellement ils avaient une haine pour le prophète sallam, les musulmans, et la oumma du milieu général. Mais le prophète sallam a pardonné à ces personnes-là. Le prophète sallam a accordé son pardon à ces gens-là, il les a laissés. Alors que c'est pas depuis un an, deux ans, c'est depuis le début de l'islam. Ça fait au moins 20 ou 21 ans que le prophète sallam subit les difficultés de la part de ces gens-là. Mais le prophète sallam a pardonné parce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné de pardonner. Et là, quand on voit ce qui se passe, même si c'était un tyran, même, mais peu importe. Regardez la Ummah, comment elle agit, comment elle réagit, comment la Ummah est assoiffée de sang quand on fait tomber un tyran, on va hurler là, Allah Akbar, pour la mort d'une personne. Ça, c'est pas notre dîn, ça. Même si c'était quelqu'un qui a fait du tort, on n'a pas à crier Allah Akbar parce que quelqu'un est mort et tout. Ces images-là, ceux qui n'ont pas iman, comment ils voient ça? Que c'est des barbares ces musulmans-là. Allah Akbar est associé à la mort. Allah Akbar est associé au sang qui coule. Que ce soit le sang d'innocents, quand il y a des attaques kamikazes, le kamikaze il dit Allah Akbar puis il se fait exploser. Même dans les films américains et tout, quand on voit le kamikaze, il dit Allah Akbar, et puis il se fait exploser. Ou alors, quand il y a ce genre d'événement qui est réel, ben, dans la tête des gens, le Allah Akbar et toutes les choses en rapport avec l'islam, pour eux, ils font la relation. Islam, c'est une de violence, c'est une de sang, diffusion de sang, ce qui fait que cette religion avance avec ça. Wallah, Mustan. Mais c'est ce genre de récit qu'ils vont mettre en avant. C'est ce genre de pardon, de afw. Et aller rechercher dans n'importe quel livre d'histoire un roi qui a pardonné à son ennemi. Jamais vous ne trouverez quelque chose qui est semblable à la réaction au akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le modèle parfait, je vois ça. Et c'est pas juste l'apparence extérieure. C'est pas juste que je mets des vêtements comme ça, la barbe, etc. C'est dans le akhlaq, dans le comportement, dans nos relations avec les gens. Là aussi, il y a uswatun hasana. On va s'arrêter là, inshallah. 44 minutes. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on a pu compléter Wassama et Wattariq. Et Inch'Allah, qu'Allah t'aide à nous de comprendre les enseignements qu'il y avait à travers ce surat. Moi, mais on promet à nous tous de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos sœurs. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va commencer avec Wassama idat al-Buruj. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillah, ya rabbil alamin.